Alors, comment vous vous sentez ce matin? Triste? Gai? Heureux? Vous êtes stressé à cause du concert gospel cet après-midi? Ou bien déprimé à cause de la pluie? Ou joyeux parce qu'on a bien chanté? Ou tranquille parce que votre cœur est en paix? Quels sont vos sentiments ce matin? Quelles sont vos émotions? Parce que ce matin, je voudrais m'entretenir avec vous de vos émotions. Alors, je n'avais pas prévu spécialement qu'il y ait des enfants qui restent au culte ce matin. Donc, les enfants, si vraiment ça vous passe au-dessus de la tête, faites-moi un petit signe pour que j'essaye de me remettre à niveau avec tout le monde. Là. Nous continuons notre étude du livre « Une nouvelle identité pour une nouvelle vie, pour grandir dans la maturité ». Et je remercie Nathalie, parce que ce matin, tu as bien fait des révisions, ce que moi, je n'ai pas prévu de faire, mais tu nous as permis de revenir sur notre identité en Christ, sur nos pensées. Et nous avons donc déjà vu, dans les messages et aussi dans les groupes de maison, qu'on pouvait grandir fort et libre. Ça va s'afficher. Hein ? Ce qui compte, c'est qui je suis. Laissez l'esprit vous diriger. Comment vivre ce qu'on croit, gagner la bataille de vos pensées. Vous vous rappelez de tout ça, hein ? Aujourd'hui, nous abordons donc le point suivant. Dominez vos émotions avant qu'elles ne vous dominent. La dernière fois, nous avons bataillé au niveau de nos pensées. Aujourd'hui, nous allons batailler au niveau de nos émotions. Alors, Manu, il a dit qu'il fallait que ça descende, qu'il fallait que ça... pas que ce soit pour remplir le cerveau. Mais là, ce matin, j'ai besoin de votre cerveau, parce qu'on a besoin que le cerveau, il contrôle tout ça. Hein ? Et si je m'adresse qu'à vos émotions, eh bien, je n'aurai pas atteint mon but. J'ai vraiment besoin de votre cerveau. Alors, qu'est-ce qu'une émotion ? Là, je vais avoir besoin que ça s'affiche quand même. Les émotions, pour ceux qui vont sur Facebook ou sur Internet, etc., vous avez ce qu'on appelle des emojis ou des émoticônes qui servent à exprimer les émotions. Normalement, ça va s'afficher, là. Hein ? Alors, vous avez des émoticônes qui expriment la joie, hein, avec différents degrés. Hein, un petit sourire de contentement, puis ça peut aller jusqu'à pleurer de rire. Vous avez la surprise. Oh ! Vous avez la peur. Alors, vous avez le petit fantôme, là, avec les cheveux qui se dressent, et puis le haut du crâne tout bleu, ça, c'est la peur. Vous avez le dégoût. Vous avez le mépris. La tristesse. La colère. Moi, j'aime bien ces émoticônes. Elles expriment bien les choses. Hein. Vous avez aussi, dans le catalogue de la joie, tout ce qui relève de l'attirance sexuelle, hein, du désir. Toutes ces icônes-là sont un visage stylisé. À chaque fois, il y a des yeux, un nez, une bouche. Pourquoi ? C'est parce que les émotions se voient sur notre figure. Hein, je lis sur votre figure. Si vous suivez jusque-là, ça a l'air. Hein ? C'est un langage universel, quelle que soit la langue. Et même nos animaux de compagnie expriment ainsi leurs sentiments. On peut lire leurs états d'âme. Le problème des sentiments et des émotions, c'est qu'ils sont difficiles à contrôler. Ils sont parfois extrêmes et peuvent nous fâcher avec de nombreuses personnes et même avec Dieu. Mais ils sont notre tableau de bord émotionnel. Ils nous indiquent s'il y a danger, comme la peur, ou s'il y a une agression, comme la colère. Et à ce titre-là, c'est très très utile. Dieu nous a donné les émotions pour nous renseigner sur l'état de notre cœur. Alors, le premier point, la première étape, s'appelle « Ne donnez pas de prise au diable ». Paul nous dit que le diable profite de nos émotions pour nous amener à pécher. Mettez-vous en colère, mais n'allez pas jusqu'à pécher. Que votre colère s'apaise avant le coucher du soleil. Ne donnez aucune prise au diable. Alors comment ? L'émotion n'est pas péché. Mais sous l'emprise de l'émotion, on peut pécher. Vous voyez la nuance ? Sous l'emprise de l'émotion, on peut pécher. Prenons l'exemple de Caïn. Vous vous rappelez l'histoire de Caïn ? Il est jaloux de son frère. Il en proie à la colère. Le texte de Genèse 4 nous dit « Cela mit Caïn dans une grande colère et son visage s'assombrit. » Le visage. Et l'Éternel dit à Caïn « Pourquoi es-tu en colère ? Et pourquoi ton visage est-il sombre ? Si tu agis bien, tu te relèveras. Mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapis à ta porte. Son désir se porte sur toi, mais toi domine-le. » Dieu lui dit de dominer sa colère. Mais Caïn ne domine pas sa colère et il s'en va tuer Abel. Donc là, c'est l'action qui est sous l'emprise de l'émotion. Là, le diable a gagné. Un autre exemple, qui n'est pas de la colère. Celui de David. L'émotion, cette fois, c'est le plaisir de voir une jolie fille. Et ses pulsions sexuelles le poussent à convoiter. Elle est belle, hein ? Dans 2 Samuel 11. Or, vers le soir, après avoir fait la sieste, David se leva et alla se promener sur le toit en terrasse de son palais. De là, il aperçut une femme qui se baignait. Cette femme était très belle. Hein. Il regarde mieux, là, il ajuste ses loupes. Elle est très belle. David fit demander qui elle était. Et on lui dit, c'est Bathsheba, la fille d'Eliam, l'épouse d'Uri le Hittite. Mince, elle est mariée. David envoya des messagers la chercher, puis elle se rendit chez lui et il s'unit à elle. Elle venait de se purifier de ses règles, puis elle retourna dans sa maison. Voilà, là encore, le diable a gagné. David n'a pas pu contrôler le sentiment amoureux. Là, encore un dérapage. Troisième exemple, Achab. Qui est Achab ? Vous savez ? Pour ceux qui ne savent pas trop, c'est un roi d'Israël qui n'était pas très. Qui n'était pas vraiment un modèle, hein, et pas top. Et il a une très méchante femme en plus. Il veut acheter un terrain bien placé et son propriétaire ne veut pas vendre. Il est frustré de ne pouvoir réaliser ses objectifs. Voilà, un objectif qu'on ne peut pas atteindre, alors on est frustré. Achab rentra chez lui, maussade et abattu, parce que Naboth de Jisréel lui avait dit qu'il ne lui céderait pas la propriété héritée de ses ancêtres. Il se jeta sur son lit, tourna le visage contre le mur et refusa de manger. Sa femme Jézabel vint le trouver et lui demanda « Pourquoi es-tu de si mauvaise humeur et refuses-tu de manger ?» Il lui répondit « J'ai parlé à Naboth de Jisréel et je lui ai proposé de lui acheter sa vigne ou s'il préférait de l'échanger contre une autre. Mais il a répondu « Je ne te céderai pas ma vigne. » Sa frustration est telle qu'il laisse sa femme Jézabel organiser le meurtre de Naboth. Vous verrez tous les détails dans la Bible. Hein. Là, c'est une frustration, hein, une colère bien rentrée, mais qui le mine au point que justement son entourage va se charger de régler l'affaire. Une fois de plus, le diable a gagné. Alors Pierre nous prévient. Nos émotions non contrôlées sont une porte d'entrée pour le diable. Il dit, faites preuve de modération et soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant qui cherche quelqu'un à dévorer. Alors, là, ça y est, on a le vidéoprojecteur. Si tu veux bien revenir au début, que nos amis puissent voir les émoticônes que j'avais préparés pour vous, si c'est possible. Sinon, je continue. Pendant ce temps-là, je passe à la deuxième étape. Donc, ne donnez pas de prise au diable. Deuxièmement, réagir aux émotions. Voilà. Voilà, vous les reconnaissez. Donc tu peux continuer maintenant. Donnez pas de prise au diable. Un verset, deux versets. Et point 2, réagir aux émotions. Alors la première manière de réprimer, de réagir aux émotions, c'est de les réprimer. On connaît tout ça. La première solution consiste à réprimer nos émotions. Puisque papa et maman m'ont enseigné qu'il est très laid de se mettre en colère, je ne vais pas me mettre en colère, sinon je serai punie. Je vais mettre un mouchoir dessus. À la place de la colère, je vais pleurer. Je vais exprimer de la tristesse. Ou alors je vais serrer les dents et puis les poings comme ça. Mais je ne me mets pas en colère, hein. Attention. Mais ça ne marche pas à tous les coups. Voilà ce que dit David dans le psaume 39. Il dit « Je m'étais dit, je vais me surveiller pour ne pas pécher en parole. Je serai comme bâillonné aussi longtemps que des méchants se tiendront devant moi. Je me suis renfermé dans un complet silence, sans prononcer une parole, tenu à l'écart du bonheur. Ma douleur s'est exaspérée. Mon cœur brûlait dans ma poitrine. Mes pensées s'embrasaient en moi, alors j'ai fini par parler. » Voilà. Donc, essayer de réprimer sa colère, c'est du déni. La colère rentrée peut provoquer des maladies ou même de l'amertume ou de la dépression. Et puis, à un moment, on explose. Ça peut arriver longtemps après, d'ailleurs. Alors, cette explosion, c'est mon petit B, l'expression incontrôlée des émotions. Alors, on peut se dire que c'est hypocrite et qu'il faut mieux se lâcher complètement, dire ce qu'on pense un bon coup. Ça arrive, hein, ça soulage, hein, n'est-ce pas, quand on fait ça. Ouf, ça y est, hein, j'ai craché ma valda, c'est sorti. Au moins, l'expression de mon émotion est en accord avec mes pensées. Oui, mais... Il y a un mais. Pendant que je me défoule, surtout lorsqu'il s'agit de colère, je peux blesser quelqu'un par mes paroles ou dire des choses insensées. Par exemple, Pierre, le disciple de Jésus, toujours prêt à dire tout haut ce que les autres pensent tout bas. Voilà ce qu'il dit. Pierre prit Jésus à part et se mit à lui faire des reproches. Que Dieu t'en préserve, Seigneur, cela ne t'arrivera pas, hein, de te faire arrêter et tout ça. Mais Jésus, se retournant, lui dit « Arrière, Satan, éloigne-toi de moi, tu es pour moi un obstacle, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, ce sont des pensées toutes humaines. » Voilà, emporté par son impulsivité, il veut montrer à Jésus que lui, Pierre, il le protégera. Ça part d'un bon sentiment, mais ça tombe à côté. Et plus tard, Jacques, le frère de Jésus, va dire « Mais que chacun de vous soit toujours prêt à écouter, qu'il ne se hâte pas de parler ni de se mettre en colère. Car ce n'est pas par la colère qu'un homme accomplit ce qui est juste aux yeux de Dieu. » Hein, la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Alors la troisième voie, c'est d'accepter d'être honnête avec nous-mêmes. L'acceptation honnête des émotions. Nos émotions sont là, tout le monde peut les lire sur notre visage. Il faut bien les exprimer, mais pas n'importe comment, ni n'importe où, ni n'importe quand. On peut les confier à Dieu. Les psalmistes pouvaient lancer des imprécations contre les méchants et appeler Dieu à leur rendre justice. Dieu connaît nos cœurs et il sait comment nous sommes faits. Il nous aime, Nathalie nous l'a dit tout à l'heure. Nos émotions révèlent nos pensées, mais nos pensées peuvent modifier nos émotions. Dans les psaumes, très souvent, ou dans ce passage des Lamentations, on voit comment l'émotion exprime nos pensées et comment nos pensées viennent changer l'émotion. Lamentations. « Oh, souviens-toi de mon humiliation et de ma vie errante, du poison, de l'absinthe dont je suis abreuvée. Sans cesse, je m'en souviens et j'en suis abattue. » Là, il exprime... Il déprime, hein, il exprime sa tristesse. Mais voici la pensée que je me rappelle à moi-même, la raison pour laquelle j'aurai de l'espérance. Non, les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme et ses tendresses ne sont pas épuisées. Chaque matin, elles se renouvellent. Oui, ta fidélité est grande. J'ai dit, l'Éternel est mon bien. C'est pourquoi je compte sur lui. Voilà, donc Jérémie exprime une grande douleur devant l'Éternel, et il y a de quoi. Jérusalem vient d'être détruite par les ennemis. Il est très abattu. Mais voici qu'une pensée vient interagir avec ses émotions. Il se rappelle les bontés inépuisables de l'Éternel. Cette pensée vient calmer son émotion, lui redonner de l'espoir. Là, allez, on repart à l'école. On va faire un petit peu de connaissances. Je vais vous parler du cerveau, siège des émotions. Donc l'état actuel de nos connaissances nous apprend que nous avons trois cerveaux. C'est bien, on a progressé. Moi, quand j'étais petite, il y en avait deux. Là, maintenant, il y en a trois. Donc vous avez le cerveau reptilien ou le cervelet, hein, dans le cercle bleu. Le cerveau intellectuel ou le néocortex. Hein, il n'y a pas de cercle là, c'est ce qui est en gris. Et vous avez le cerveau émotionnel ou le système limbique qui est dans le cercle rouge, au centre. Le cerveau intellectuel raisonne, il fait des mots, il fait des phrases, il calcule, il mémorise, il est créatif. Et il dit « je pense ». Il prend son temps. C'est un petit peu comme l'intelligence artificielle dans les ordinateurs. Hein. Il apprend tout le temps. Hein. Il rajoute sans arrêt des nouveaux logiciels. Le cerveau reptilien est très rapide par rapport à un ordinateur. C'est comme la carte mère, pré-imprimée. Là, il agit sur nos réflexes. Il est le siège des pensées automatiques. C'est une rapidité qui est nécessaire à l'instinct de survie. Hein, des fois, il y a des choses qui partent toutes seules. Vous ne savez pas pourquoi c'est parti tout seul. Hein, c'est le cerveau reptilien qui a pris le dessus. Le cerveau limbique est le siège des émotions et de notre mémoire émotionnelle. Lui, il dit « je sens, je te sens, je me sens, je nous sens, il sent ». C'est parce qu'il est dans les sentiments. Alors, je ne vais pas tout vous détailler parce que je ne suis pas médecin. Je vais juste vous donner quelques informations dont nous avons besoin pour la suite. Et aussi pour ce que vous allez voir dans les groupes de maison. Dans ce cerveau émotionnel, nous avons l'hippocampe. L'hippocampe, il est vert. Il est responsable de la mémorisation de souvenirs émotionnels forts, dont on va se souvenir très longtemps. C'est pour ça, par exemple, que vous vous rappelez du 11 septembre 2001. Tous ceux qui étaient assez vieux à l'époque pour s'en souvenir se rappellent très bien ce qu'ils faisaient quand ils ont appris la nouvelle. Parce que, voilà, notre hippocampe a dit ça, je mémorise. Toc, c'est nouveau, ça peut servir. Vous avez des amygdales, une de chaque côté, qui jouent le rôle de chef d'orchestre. Elles reçoivent des informations et puis elles vont les décoder et puis les distribuer aux autres choses qui sont dessinées là. En particulier, en situation de danger, ils se disent « Ah tiens, il y a un danger. » Et ça balaye. Vous avez le cortex préfrontal, donc ça fait partie du cerveau intellectuel, là c'est juste devant, qui dialogue avec l'amygdale. Et avec le système limbique, après qu'il y ait une réaction émotive, automatique, initiale. Pour choisir l'action la plus efficace pour se soustraire au danger. Donc, je vais revenir là-dessus bientôt. Là, vous avez les deux thalamus qui créent l'émotion et qui sont en dialogue avec l'hypothalamus qui répercute à l'organisme les émotions créées par le thalamus. Bon, en clair, l'émotion se forme dans le thalamus et puis après, l'hypothalamus prend cette émotion et puis va informer les yeux, les oreilles, les bras, les mains, le corps de ce qui se passe. Et puis tout ça, ça va réagir. Donc la différence entre un sentiment et une émotion, c'est justement dans l'émotion, il y a de la réaction, il y a de l'action. Il va réguler aussi l'hypophyse qui sécrète des hormones. Écoutez bien. Il intervient notamment dans la régulation des fonctions comportementales, sexuelles, alimentaires, de défense, de stress, de thermorégulation. Il y a donc des interférences importantes entre nos hormones et nos émotions. Autrement dit, quand je suis ado, par exemple, que je commence à avoir des poussées d'hormones, Il ne faut pas s'étonner parce que je suis en train de rire ou de pleurer et que je ne sais même pas pourquoi. Voilà, ça, c'est ces interactions avec les hormones. Où je suis, ou mesdames, pouvons avoir de temps en temps nos hormones qui font qu'on est un peu plus irritable. Et messieurs ont très bien compris qu'il y a des moments où on fait le tour. Voilà. Voilà, les hormones de croissance, les hormones de toutes sortes. Alors, sur le dessin suivant, il y a les deux routes de la peur. En situation de peur, qu'est-ce qui se passe? L'amygdale se rend compte qu'il y a une situation nouvelle qui engendre de la peur, c'est nouveau. Donc, on est un petit peu anxieux, il y a de l'agressivité. Et l'amygdale a le choix entre deux routes, elle va prendre les deux. Mais il y en a une qui est courte et une qui est longue. La route courte reste à l'intérieur du système limbique et provoque une émotion primaire, immédiate et des réactions de défense. C'est très utile d'avoir quelque chose qui réagit très vite. Par exemple, coup de klaxon, oh, ça me fait sursauter, qu'est-ce qu'il y a? La route longue va passer par le cortex, là, préfrontal, qui analyse l'émotion et qui vient la corriger. Cette émotion qui arrive après, parce que c'est plus lent, est appelée l'émotion secondaire. Le cortex aura décidé si cela vaut la peine d'avoir peur ou non. Ah, ce n'est que toi. Bon, ça va. En cas de stress, le cerveau reptilien s'emballe. Le stress augmente très vite et emporte le cerveau limbique avec lui. Du coup, ce sont des émotions qui montent très vite, l'ensemble ayant pour résultat de court-circuiter le cortex et de l'empêcher de s'exprimer. On reste bouche bée, incapable de réfléchir et de prendre du recul. J'ai beau me dire que je ne peux pas m'empêcher de ressentir, ce mécanisme peut ainsi nous faire perdre le contrôle et nous empêcher d'agir rationnellement. Le cortex, siège de l'intelligence supérieure, ne pouvant fonctionner. Donc, ce qui explique que quand le cortex ne fonctionne plus, parle à ma main, là, ma tête est malade. C'est même plus la peine d'essayer de raisonner, quoi. Ça arrive dans des situations très violentes, par exemple, des agressions, des viols, des meurtres, des situations de guerre, des traumatismes. Ça arrive aussi aux bébés. Alors, les bébés, ils n'ont pratiquement que le cervelet et le système limbique, parce que leur cortex, c'est encore une page blanche. Ils n'ont rien écrit dessus. Donc, du coup, ils ne peuvent pas se raisonner, ils peuvent pas, ils sont tout de suite dans l'émotion. Il faut leur apprendre à gérer les émotions en les rassurant. Ça, c'est tout le travail de l'éducation. Apprendre à gérer ses émotions. Alors, comment contrôler l'émotion? C'est notre troisième étape. D'abord, on va tenir compte du poids du passé. Nous avons vu qu'il y a une zone du cerveau, l'hippocampe, qui mémorise les émotions fortes. Donc, ce fameux 11 septembre. Mais aussi d'autres émotions fortes, le jour où j'ai eu très peur. Notre cerveau émotionnel a gravé ce souvenir émotionnel. Il a gravé d'autres souvenirs de ce genre. Il a gravé aussi des souvenirs répétitifs. Par exemple, si un jour vous mangez une huître, et puis que vous êtes malade, vous pouvez développer une allergie chaque fois que vous allez revenir sur des fruits de mer. Ou bien si vous avez été piqué par une abeille, une fois, deux fois, trois fois, au bout d'un certain temps, vous allez avoir une allergie, être complètement intolérant. Eh bien, au niveau des émotions, c'est pareil. Vous pouvez développer une intolérance dès que quelqu'un vous dit, je ne sais pas moi... faut pas faire ci, faut pas faire ça. Alors ça vous rappelle ce parent qui vous disait tout le temps, faut pas faire ci, faut pas faire ça. Et vous supportez plus qu'on vous le dise. Et pourquoi? C'est pas si grave que ça, mais c'est parce que vous avez développé une intolérance. Et pourquoi on développe une intolérance? C'est parce que nous avons mémorisé dans notre cerveau émotionnel toutes ces petites choses-là qui se sont accumulées jusqu'à faire un point de... Le deuxième point. Le déclencheur. Il y a toujours un déclencheur d'une émotion. Ce déclencheur, c'est un fait brut qui se produit à l'extérieur de nous. Dans les exemples qu'on a vus au début, c'est le début de l'offrande de Caïn, c'est la vue de Bathsheba sur la terrasse, c'est le refus de Naboth. Dans la rue, un coup de klaxon, ou les actualités à la télé, ou une agression, ou un mot de trop. Voilà, les déclencheurs, ils sont extérieurs à nous. Le point suivant, les émotions primaires. Donc, c'est l'émotion qui arrive tout de suite après le déclencheur. Plus cette émotion est nouvelle, plus il y a un effet de surprise, plus il y a de stress, et plus cette émotion est forte. Sur une échelle à 10, ça peut monter à 8. Et si derrière, il y a des souvenirs douloureux, ça peut monter à 10. Le cœur s'emballe. Je peux être très amoureuse, je peux être très en colère. Là-dessus, lorsque les hormones s'en mêlent, c'est la fête. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, les ados peuvent être irritables, ou les dames, ou les messieurs, un coup de testostérone, et d'un seul coup, ça y est, vous voilà en bagarre, et vous devenez agressif. Et les petits-enfants, donc, vous savez bien, font pleurer tout le temps. Ben oui, ils ne savent pas faire autre chose. Il faut apprendre. Donc, il faut qu'ils apprennent à faire une évaluation mentale. Donc, l'émotion va être analysée par le cortex pour être traduite en mots, en phrases. Elle va être évaluée. Est-ce que j'ai raison d'avoir peur, d'être en colère, de me rouler par terre? Par exemple, je vais à la foire et je fais un tour dans le train fantôme. À un moment, dans le noir, il y a une main qui me frôle là les cheveux. L'émotion primaire, c'est la peur. Puis je me dis qu'il y a un type qui est payé pour ça dans les coulisses, pour faire peur aux gens. Ce n'est pas une grande menace, c'est un jeu. C'est l'évaluation mentale qui me dit ça. Donc, autre exemple, un jour quand j'étais étudiante, j'étais en mobylette, je tends le bras, puis je tourne brusquement à gauche. Un autre étudiant me suivait en voiture et voulait me doubler. Il a failli me renverser. Il a pilé juste à temps. Sa première réaction a été de descendre de voiture et de venir m'engueuler. Tu te rends compte, j'aurais pu te tuer. Et il avait raison. Mais bon, très vite, il a évalué la situation. Le pire a été évité. On en a été quitte pour une bonne peur. Son émotion de colère niveau 8 est redescendue à une peur rétrospective niveau 2. Voilà, dans la Bible, les différents psalmistes expriment leur jalousie du méchant à qui tout réussit. Mais finalement, après évaluation mentale, ils trouvent que le sort final des méchants qui iront en enfer n'est pas enviable. Mieux vaut être juste et souffrir un peu et aller avec le Seigneur. L'évaluation de la situation a transformé la jalousie, le sentiment d'injustice en pitié et en sentiment d'avoir fait le bon choix. Et ça donne donc une émotion secondaire, atténuée, corrigée, revisitée. Nos parents nous apprennent à contrôler nos émotions dans les situations courantes afin que nous puissions avoir un comportement acceptable en société. Par exemple, dans la conduite automobile. Là, on est obligé d'avoir de temps de réaction très court. On ne peut pas prendre le temps de réfléchir pour savoir quoi faire quand il y a un piéton qui déboule, un accident juste devant, pour s'insérer dans la circulation d'une autoroute. Nous savons que la circulation est pleine de dangers, mais nous avons peu de temps pour réagir. Pas le temps de réfléchir. Mais si nous conduisons sous l'emprise de la peur ou de la colère, nous conduirons mal. Pour arriver à contrôler notre stress, à conduire prudemment, à gérer toutes sortes de situations, nous passons des heures en auto-école à analyser toutes ces situations pour trouver la réponse appropriée et l'imprimer dans notre cerveau. Et au volant, pour apprendre à mettre en pratique, nous entraîner à rencontrer ces situations. La sécurité est à ce prix. Donc, entraînement, 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 pour faire en sorte que nous améliorions nos temps de réponse. Les personnes qui travaillent dans l'armée ou dans la police ou les pompiers ou ceux qui font des arts martiaux, c'est pareil, ils s'entraînent pour bien réfléchir à la situation et pouvoir faire face très rapidement dans les situations critiques. Cela permet à notre émotion de tracer dans notre cerveau un chemin très rapide, tout en passant par le cortex, pour aller aussi vite que le chemin court, que je vous ai montré tout à l'heure. Nous apprenons à notre cerveau émotionnel à être plus intelligent. C'est ce que ça veut dire. Plus rapide et plus intelligent. Alors un autre point, c'est les émotions des autres. Lorsque nous voyons une personne être sous l'emprise d'une émotion très forte, Il est inutile de parler à son cortex, à son cerveau intellectuel. Il est pas, il écoute rien. Il est déconnecté, ça passe pas. Même les mots peuvent être mal pris. Alors que dire, par exemple, à quelqu'un qui vient de perdre un être aimé? Que dire à quelqu'un aussi qui est sous l'influence des hormones, hein, ou bien sous l'influence d'une drogue, ou de l'alcool, ou des médicaments? J'ai découvert en préparant ce message, par exemple, que les femmes qui prennent la pilule arrivent moins bien que les autres à lire les émotions des autres. Hein, il y a des études qui ont été faites. Et elles ressentent plus d'épisodes dépressifs. Ça, il y a eu deux articles en 2017 et 2019 hein, sur cette question-là. Pourquoi ? C'est parce que ça vient perturber notre mécanisme au niveau hormonal et donc ça perturbe aussi nos mécanismes émotionnels. Alors que faire ? Il faut parler au cerveau émotionnel de l'autre, répondre à l'émotion par une émotion, pleurer avec ceux qui pleurent, se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Quand Jésus a pris la mort de Lazare, il pleura. Il pleura. Si une personne exprime son émotion, ce n'est pas forcément pour que les autres lui donnent des solutions, pour qu'on lui dise « tu aurais dû faire ci, tu aurais dû faire ça », etc. Non, c'est d'abord pour être comprise, acceptée dans cet état. Regarde comme je souffre. C'est pour obtenir de la compassion, de la solidarité. Répondre à l'émotion par l'émotion, c'est ce qu'on appelle l'empathie. Quand je partage un souci dans le groupe de maison, les autres me disent « on va prier pour toi ». Et c'est tout ce que je cherche, de la compassion. Pareil pour les bonnes nouvelles, de la solidarité. L'empathie peut être exprimée comme ça, par Romains 12, « bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez, ne maudissez pas, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent, ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. » N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Voilà. Comment gérer des émotions? La dernière étape, c'est les blessures du passé. Par exemple, des blessures graves, des personnes abusées, violées dans leur passé, ou bien qui auraient été maltraitées, manipulées, harcelées. Et plus ces blessures sont anciennes dans l'enfance, plus elles ont des chances d'avoir été infligées par des très proches, comme les parents. Hein? Par exemple, des parents qui ne savent pas bien faire leur boulot de parents et puis qui maltraitent sans le vouloir leur enfant, ben, il va s'en souvenir d'autant plus que sa mémorisation émotionnelle a fonctionné alors que son cortex lui n'était pas encore au point. Hein? Quelles sont les étapes de guérison? Premièrement, une relecture chrétienne. Maintenant que je suis chrétien, je peux revisiter mon passé avec les yeux de chrétien d'adulte d'aujourd'hui. Je peux comprendre que ce qui me fait encore souffrir aujourd'hui, ce n'était pas ma faute. C'est quelqu'un qui m'a fait du mal et parce que j'étais enfant, je ne comprenais pas que c'était l'autre qui était en tort. Cet autre, ce parent, je le voyais presque comme un dieu, je ne pouvais pas le remettre en cause. Mais maintenant, voici, les choses sont nouvelles. Les choses anciennes sont passées, voici, les choses nouvelles sont venues. On peut revoir tout ça. Jésus veut guérir l'enfant qui est en toi. Cet enfant qui a souffert, ce n'est pas parce qu'il est devenu chrétien qu'il a oublié. Jésus ne veut pas faire oublier. Il veut guérir cet enfant. Quand j'étais enfant et que je souffrais, où était Dieu ? Ben Dieu était là, il pleurait avec moi. Aujourd'hui, Jésus est toujours là avec moi et il veut m'accompagner pour revoir le film ensemble. Si tu veux bien, on va refaire ensemble l'évaluation mentale. Ce parent violent, avait-il raison de s'emporter sur toi comme il le faisait? Est-ce que la Bible justifie son comportement? Peut-être celui qui essayait de te faire sentir coupable, c'était lui le coupable et toi la victime. Ce parent violent qui s'emportait sur toi, pourquoi était-il comme ça? Connais-tu son histoire à lui? A-t-il toujours été comme ça? Serait-il victime lui aussi des blessures de son passé? Peut-être qu'il n'a pas eu son père ou sa mère, peut-être qu'il a été maltraité lui aussi. Ainsi, avec Jésus, remettons tout sur la table, moi enfant, les circonstances, les différents acteurs. Quelles étaient nos émotions de l'époque et quelles sont nos émotions secondaires aujourd'hui? Ce travail de guérison avec Jésus peut parfois nécessiter l'aide d'un conseiller. Ce n'est pas toujours simple, ça peut prendre du temps hein, de repasser tout. La troisième étape, après tout ça, c'est le pardon. Pardonner à ceux qui nous ont offensés. Jésus nous demande de pardonner, qu'on le veuille ou non, c'est ce qui est demandé. Hein, Matthieu 6, « Si vous ne pardonnez pas aux autres, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. » Ou bien la parabole de celui qui avait, on lui avait remis sa dette et qui ne voulait pas la remettre aux autres. « Voilà comment mon Père céleste vous traitera, vous aussi, si chacun de vous ne pardonne pas du fond de son cœur à son frère. » Ou encore, Éphésiens, chapitre 4, « Soyez bons et compréhensifs les uns envers les autres, pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Pardonner libère. Quand on ne pardonne pas, on se fait le juge de l'autre. Pardonner veut dire que je laisse Dieu faire justice, je ne juge pas moi-même, je ne suis que le plaignant, pas le juge. Si ça se trouve, celui qui m'a blessé est chrétien, ou va le devenir. Vais-je refuser le pardon alors que moi j'ai reçu la grâce? On a déjà plusieurs fois prêché sur le pardon, et on ne le répétera jamais assez, c'est incontournable. Tous ceux qui ont du mal à pardonner et qui finalement un jour peuvent le faire ressentent un soulagement. Comme par exemple quand Manu nous a raconté l'histoire de Corrie ten Boom lorsqu'elle a croisé son ancien bourreau. C'était dur, mais elle l'a fait. Le pardon est le moyen de laisser partir la haine. Et en laissant partir la haine, cela enlève une occasion à Satan d'avoir une emprise sur nous. Paul aussi a pardonné aux Corinthiens qui lui avaient fait du mal. « Celui à qui vous accordez le pardon, je lui pardonne moi aussi. Et si j'ai pardonné, pour autant que j'ai eu quelque chose à pardonner, je l'ai fait à cause de vous devant Christ pour ne pas laisser Satan prendre l'avantage sur nous. Nous ne connaissons en effet que trop bien ses intentions. » Il ne veut pas laisser Satan prendre l'avantage. Si vous avez déjà pardonné, vous avez déjà expérimenté que ça fait du bien et que ça lâche. Alors, faites la liste, est-ce qu'il reste encore des gens à pardonner ? En résumé, qu'est-ce que nous avons appris ? Nous avons appris que nos émotions sont naturelles, que Dieu nous a créées ainsi, mais qu'elles peuvent être une porte d'entrée au diable pour nous faire chuter et aller au-delà de ce que nous voulons. Avec l'aide de Dieu, nous apprenons tout au long de la vie à bien gérer nos émotions. Celles-ci peuvent avoir laissé des traces profondes et nous perturber dans notre vie actuelle. Les blessures du passé peuvent être guéries par Jésus si nous le voulons et si nous acceptons de pardonner. Tout ce travail de guérison émotionnelle et spirituelle nous permet de nous libérer de lourds fardeaux et de marcher mieux par la suite. Ainsi, nous devenons plus matures et nous pouvons aider les autres. Ceux qui sont en pleine bataille avec leurs émotions ont besoin de toute notre compassion, de notre empathie et éventuellement de notre pardon. Nous passons tous par ces étapes. Dans les petits groupes de maison, il sera possible d'aller encore plus loin et de mettre en pratique ce qui a été exposé ici. Vous verrez les questions dans le petit groupe. Voilà, j'ai fini. Si quelqu'un a des questions personnelles, je suis disponible après le culte. Merci beaucoup.